Vous écoutez
RMC. RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein. Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font les bonheurs des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot Thomas Desson.
Avec Denis Rigolot, avec Kevin Diaz et avec Oussem Oussaïev pour ce mercato spécial sauce anglaise dans un instant. Parce qu'André Villas-Boas disait, évidemment, on est pendu aux activités anglaises. Mais voilà ce qui s'est fait quand même dans l'Hexagone. On n'a pas eu besoin du tea time, on n'a pas eu besoin de la Première Ligue pour ces derniers mouvements en France.
Eh oui, ça allait très vite du côté français. On démarre avec l'AS Monaco qui fait parler de le club monégasque a été très actif aujourd'hui. Un départ et une arrivée potentielle, rien n'est encore officiel, mais on parle de l'arrivée de Jeff Rennes-Adelaide, de l'international espoir du côté d'Angers, qui viendrait à Monaco contre un chèque de 20 millions d'euros. Et puis dans le sens des départs, 20 millions d'euros.
Ça veut dire que Ronny Lopez s'en va, parce que c'est attaquant de côté. Hein.
Et c'est Ronny Lopez qui va apporter un peu d'argent à Monaco. On parle d'un départ à Séville autour de 25 millions d'euros. Est-ce que c'est bien acheté? Est-ce que c'est bien vendu?
Ah, mais je sais pas, moi je compte pas les sous, mon vieux.
C'est vrai?
Oh, je sais pas trop.
Pourtant, t'aimes bien, toi, quand ça part d'oseille.
Moi, l'histoire de savoir quel peut être le prix d'un joueur transfert et tout.
Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime ça. Moi, je trouve que Ronny Lopez, 25 millions, c'est très cohérent. Rennes Adélaïde, 20 millions, allez.
Ronny Lopez, 25 millions, mais c'est pour ça que je dis que
c'est dur à
parler de ce genre de choses, parce que quand tu vois certains joueurs, le prix qu'on les a payés, pardon, Ronny Lopez.
Il y a Ben Yedder, dans l'affaire ou pas?
Comment?
Est-ce qu'il y a Ben Yedder dans l'affaire, Ronny Lopez?
Mais Kevin, Ronny Lopez, 25 millions, c'est pas une bouchée de pain. C'est quand même un joueur qui, t'as des joueurs, moitié moins bons, qui sont achetés 40 en Angleterre.
Non, parce que, tu vois, on l'attendait comme le nouveau Bernardo Silva. Mais bon, il a, au niveau de la régularité, les qualités, il les a, par contre au niveau de la régularité c'est pas encore ça, et avec les saisons difficiles qui
ont juste pris quand j'ai passé à la télé, j'étais nul, donc c'est pas ces trucs là.
Non, mais alors difficile. Messieurs, international des moins de 21, Jeff Rennes-Adelaide, ça peut valoir plus cher qu'un Ronny Lopez qui revient de blessure, qui fait une deuxième partie de saison au départ en boulet de canon, et après ça coince un peu comme toute cette équipe de Monaco. Il n'a que 23 ans aussi, Ronny Lopez.
Ouais, c'est vrai qu'il est jeune, hein. Il est jeune. On a l'impression que, parce que ça fait longtemps qu'il joue, même quand il était à Lille.
Il est jeune, mais il a l'expérience.
Mais il est jeune, il a l'expérience, c'est vrai. Donc c'est, voilà, du côté de Monaco, on enchaîne rapidement avec la grosse info transfert du côté de France. C'est français, c'est le départ d'Ismaïl Assar de Rennes, et qui devient donc le joueur, un record du joueur le plus cher, la meilleure vente pour Rennes, et puis le plus gros achat pour Watford, puisqu'il rejoint Watford contre un chèque de 40
Olivier
millions d'euros.
Olivier Létang a passé un an à Londres, il a
40 millions d'euros. Donc, est-ce que, pareil, là aussi, Daniel, Kevin, est-ce que c'est bien vendu?
C'est un joueur à fort potentiel, c'est un joueur qui a une potentielle revente, hein. On connaît ses qualités, c'est un joueur explosif, c'est un international. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'aujourd'hui, 40 millions, on a l'impression que c'est peu, alors que c'est énorme.
C'est la plus grosse vente du Stade Rennais.
Ouais, ça doit être quoi, la moitié du budget de Rennes pour la saison prochaine, quasiment.
C'est en tout cas une belle vente.
Après, pour lui, le choix, Watford, bon, voilà, c'est vraiment parce
le football anglais.
Tu veux aller en première ligue, qu'est-ce qu'il va, quoi.
T'es à Londres aussi.
Mais là, en revanche, moi maintenant, c'est l'étape d'après, parce que là, à la limite, j'ai presque envie de te dire, maintenant c'est fait, on s'en fout, quoi.
Comment Rennes, tu le remplaces?
Ouais, Rennes.
Alors tout à l'heure, le président l'étant.
Ils attendent quel moment? Tout à l'heure, la dernière semaine, là, maintenant.
Bah, tout à l'heure, Ben Arfa.
Ils ont fait des dossiers. Non, ils ont fait des dossiers. Ne reviendra j'espère.
Pas. Bah, tout à l'heure, le président l'étant nous parlait du jeune Lorienté Claude Maurice, qui était un temps supervisé par le Paris Saint-Germain et qui pourrait être une des cibles privilégiées. Ouais.
C'est un bon joueur.
Je t'invite.
Ça fait deux ans que c'est le meilleur joueur.
Je t'invite à regarder. En plus, tu sais, il sait très bien.
J'étais en train de blaguer, parce que franchement, ça fait tout sauf nom de joueur de foot.
C'est vrai.
Claude Maurice n'est pas joueur de foot.
Et pourtant.
Ou alors dans les années 70-80, c'était joueur de foot.
Et Florian Maurice,
ça faisait pas joueur de foot.
C'est ce que je dis. Il y a 30 ans, ça fait joueur de foot. Aujourd'hui, plus trop.
En tout cas, c'est
Maurice,
un très bon joueur.
Le mec, il travaille dans la mode.
Bon, il a des qualités, en tout cas.
Dis donc, Oussem, je croyais qu'Angers avait réussi à repousser les assauts pour Baptiste Santamaria, mais ça pousse encore pour Baptiste Santamaria.
C'est vrai que Santamaria, il y avait une première offensive.
Santamaria, ça fait joueur de foot comme nom.
C'est vrai?
Ah ouais,
c'est un très bon joueur de foot, hein. Milieu de terrain axial de 24 ans.
Ça fait chanson. Santamaria.
Thomas Desson, joueur professionnel, fait pas joueur de foot.
Daniel Riolo, ça fait joueur de foot.
Ouais,
ça fait
de série B italienne.
Ça fait latéral italien.
Voilà, latéral mais de série B.
Ouais. Ah mais moi je croyais que quand tu disais série B, c'était un autre type de.
Non, non, série B.
Donc on revient sur Santa Maria, première offensive.
Kevin Diaz, ça fait genre de foot, Kevin Diaz comme nom.
C'est vrai, ça fait international colombien.
On est deux. On est deux en plus.
Oussaïef, ça fait un peu tricoteur, mais c'est le genre de foot.
Et tu sais quoi, ça fait très bien même. Ça fait très bien en tout cas.
Ça fait très bien tricoteur.
Est-ce qu'on peut revenir sur Santa Maria,
s'il te plaît?
C'est vrai. Alors Santa Maria, il a été première offensive d'Aston Villa il y a quelques jours. Une offre de 10 millions d'euros refusée par Angers. Et cette fois-ci, on apprend que c'est Naples qui a approché le joueur et qui, dans un second temps, va approcher le club parce que Carlo Ancelotti aime beaucoup le profil du joueur. On s'en rappelle, un Santa Maria polyvalent, milieu de terrain qui va à la bagarre, comme on dit, qui est très bon dans les duels et aussi qui est bon avec ses pieds. On le rappelle aussi, c'est celui qui a le record de distance parcourue l'année dernière en Ligue 1. C'est lui qui a le plus couru la saison dernière.
Ça,
donc
tu sais que ça, maintenant, les entraîneurs regardent beaucoup. Hein.
Et surtout Carlo Ancelotti.
Les kilomètres parcourus, les sprints à haute intensité, voilà, cher à Daniel.
Les sprints à haute intensité, je tiens à vous le placer, parce que ce sera une nouveauté sur MC Sport. Au-delà de 22 km/h, tu regardes l'indice de sprint et c'est vrai que. Mais même en rugby, on va l'avoir sur RMC Sport, on va voir l'indice de stats.
Tu trouves que c'est important
depuis le temps que je l'attends.
Daniel, tu trouves que c'est important ce genre de stats?
Les stats, c'est une des celles qui m'intéresse. Les sprints à haute intensité.
Maintenant, moi, ce qui m'intéresse.
Le parcours global, ça peut aussi être un bon indicateur souvent.
Attends, ce qui m'intéresse, c'est sprint à haute intensité, c'est évidemment pas le même pour un latéral que pour un milieu. Donc il va falloir raison garder en fonction de ton adversaire. C'est ça qui va être intéressant. Le chouchou de Courbis.
Eh oui. L'attaquant de Coach Courbis la saison dernière va rester en Ligue 1, lui, il va pas continuer avec Caen en Ligue 2. Et c'est Casimir Ninga qui s'engage à Angers, contrat de 3 ans donc pour l'attaquant. Mais qui n'a que 24 ans.
De petit club.
De CFA.
En tout cas, j'ai le nom qui fait absolument pas joueur de foot. Gilbert Bribois, c'est...
Il est coureur de trail, Gilbert Bribois.
Moi, si tu me dis que Gilbert Bribois.
C'est en CE2, mais ça fait pas joueur de foot.
Si tu me dis que Gilbert Bribois joue en attaque avec Raymond Coppa, je te crois. Tu vois, dans les années 50.
Oui, là, ça marche, je sais. C'est le genre de foot des années 50.
Je vous laisse mettre de vos propos.
Non, mais, coureur de trail, Gilbert Bribois.
Et pourtant, je l'ai vu jouer. Il joue avec nous au Média FC. Il joue quand même, Gilbert.
Bon,
Gaël Kakuta nous fait un petit retour.
Eh oui, retour à Amiens. Lui qui a laissé une très bonne image du côté d'Amiens, il va quitter.
Oui, s'il revient, c'est qu'il a pas laissé une bonne image là où il est allé.
Par contre, il va quitter le Rayo Vallecano pour rejoindre Amiens. En tout cas, le président amiénois a insisté pour son retour et ça devrait se faire puisque déjà, il est physiquement déjà à Amiens. Il faut juste que les deux clubs se mettent d'accord. Apparemment, selon nos informations, l'accord risque de tomber dans quelques jours.
Et Amiens s'en met plein les fouilles.
Eh oui. Grosse vente du côté d'Amiens. Grosse vente. Attention, toi qui aimes beaucoup les grosses sommes. Ah ouais. Une vente de 7 millions d'euros. Emile Kraft, le latéral amiénois. Il part contre 7 millions d'euros. Il rejoint un club anglais, Newcastle.
Les conséquences économiques de ce mercato.
C'est les courses du week-end.
Oui, mais attends, 7 millions d'euros pour Amiens, c'est beaucoup quand même.
Ah, bah, dans les cas.
Pour un latéral droit.
Je parle pour un club anglais, c'est.
C'est le pourboire.
C'est rien, quoi. Ah oui,
mais ils ont tous à peu près 100 millions à dépenser. On en parlera justement dans un instant avec Vincent Chaudel sur ses conséquences économiques et sur ce vrai marché anglais. Mais justement, le dernier jour du mercato, c'était aujourd'hui. Et ça s'est arrêté à 17h, heure anglaise, soit 18h, heure française pétante.
Alors, pour rappeler à nos auditeurs et nos téléspectateurs, les clubs anglais devaient s'arrêter à 18h, mais ils avaient jusqu'à 20h s'ils avaient envoyé tous les documents de transfert.
Il y a eu des trucs qui sont tombés.
À la dernière minute. Ah. On commence par ça.
Ouais.
David Luiz qui rejoint Arsenal, indemnité de 8 millions d'euros, contrat de 2 ans donc pour les défenseurs, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.
Quelle carrière quand même pour David Luiz.
Il reste à Londres.
Bon, franchement, vraiment, bravo à lui parce que.
Tu penses qu'il a déménagé ou pas? On sait pas.
Non, c'est plus UP,
Chelsea. Et les mecs?
C'est plus UP.
Je pensais qu'il avait. Vous savez quel âge il a?
32.
Il n'a que 32 ans. Moi, j'étais persuadé qu'il est 35.
Voilà, il vient remplacer numériquement Laurent Koscielny.
D'accord.
Et puis, on le rappelle, il avait prolongé à Chelsea de 2 ans. Donc, Arsenal rachète ses 2 années de contrat.
David Luiz, président d'un club de futsal à Paris.
Exactement.
J'aime pas le côté je boude l'entraînement parce que je veux vraiment forcer le transfert. Moi, j'ai du mal avec ça.
Mais ouais, c'est
un bon mec.
C'est un classique.
C'est pas tant dans sa personnalité.
Ouais, c'est pas parce que c'est classique que
c'est un joueur. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain. S'il a raté un entraînement une fois, honnêtement, il y a pire. Les clubs font pareil. Hein. Les lofts et compagnie. Les clubs se gênent
ça
pas.
Va,
donc,
ça va.
Le gros transfert dont il faut parler, Thomas. Et ça, c'est Daniel qui aime le football, qui qui va nous donner son avis dessus, c'est Lo Celso qui rejoint Tottenham. Ah ouais. Alors, sous la forme d'un prêt payant de 14 millions d'euros et puis une indemnité de transfert pour l'année prochaine autour de 40 millions d'euros. Donc, en gros, ça devrait se jouer autour de 60 millions d'euros. Et lui, il signe pour 5 saisons.
La carrière de Lo Celso, elle est quand même incroyable.
Qu'est-ce qu'on a fait avec lui depuis
Lo Celso, il vient au PSG pendant 6 mois, il joue que la Coupe de France et il joue en réserve ou en tout cas, on le voit pas une minute. Je sais pas si.
Alors,
pas
malheureusement, assez... il paye.
Tout le monde a vu très vite que c'était un bon joueur de foot. Quand même.
Malheureusement,
oui,
il paye.
Pourquoi il a jamais eu vraiment sa chance
parce
comme
que
ça.
Il a sûrement payé le match qu'il a joué face au Real dans ce poste de sentinelle où il n'a pas été très bon, alors que dans les autres rencontres, il a souvent été bon.
Que le PSG ait fait une erreur en le laissant partir, je pense qu'on l'a tout de suite dit. Après, il va au Betis, derrière, il va à Tottenham, il est dans une progression normale, c'est tant mieux pour lui, c'est un très bon joueur de foot. Mais donc, Lo Celso va à Tottenham. Ça veut dire que Tottenham n'a pas laissé partir Eriksen.
Il est encore là.
Et qu'ils n'ont pas fait venir Dybala.
Et qui n'ont pas fait venir Dybala.
Dybala, Sky avait parlé d'un accord.
Exactement.
Trouvé. Résultat,
c'est. Alors, selon
pas
la presse italienne, ça, c'est des informations qui viennent de la presse italienne, la Juve aurait retenu Dybala pour pouvoir l'introduire dans un deal pour récupérer Mauro Icardi. Parce que je vais vous le dire tout à l'heure, on peut en parler tout de suite. Lukaku est officiellement un joueur de l'Inter. Il arrive à l'Inter. Et donc Icardi.
Et Dybala irait à l'Inter avec Icardi qui.
Exactement. Ça, c'est ce que dit la presse italienne.
Possible.
Ça je crois tient, que c'est 16 buts, toute compétition confondue quand même, hein, Lo Celso, plusieurs
pour un milieu de terrain.
Elle est pleine.
Non, mais c'est bien pour lui.
L'information, c'est que Tottenham refait sa paire de milieu de terrain avec Ndombele et Lo Celso.
Ouais.
C'est un autre style de jeu.
Dybala,
c'est ce qu'il y avait l'année dernière.
Et Icardi qui viendrait pour jouer 9 parce qu'ils ont plus de 9. Ouais. Si ça pourrait tenir la route, Conte a besoin de se refaire une grosse équipe.
Alors le prix de Lukaku, là, excuse-moi, j'en saute un parce que je vois ça. Là. Ouais, le prix de Lukaku, je sais pas si c'est au poids, mais ça c'est l'inflation anglaise qui fait que tu gardes un prix derrière. Ah non, ça vaut au moins ça.
70 millions d'euros. Fois. C'est vrai que c'est moins que ce qu'il avait été acheté. Ouais, 70 plus 13 de bonus.
Ouais.
Et c'est quand même l'Inter met en avant que c'est vraiment une demande d'Antonio Conte et que l'entraîneur insistait pour récupérer Romelu Lukaku. En tout cas, le Conte dit dans le communiqué transmis par le club que lorsqu'il était à Chelsea, il voulait récupérer Romelu Lukaku, mais ça ne s'est pas fait.
Je suis désolé, j'en ai sauté un, c'est important. L'un des deux frères jumeaux, là, les deux Cessegnon, il y en a un justement.
Le latéral.
Aussi qui arrive à Tottenham.
Et oui, c'est le latéral Ryan Cessegnon qui quitte Fulham pour rejoindre Tottenham. On parle d'une indemnité de transfert aussi de 25 millions d'euros et d'un contrat de 5 ans donc pour Ryan Cessegnon. Il y a quelques jours, il y avait une rumeur folle qui tournait, on entendait son nom du côté de l'OM. Finalement, c'est Tottenham qui a fait la
million sur un latéral.
On parlera du cas des Gunners avec Julien Laurence parce qu'on a l'impression que c'est une nouvelle ère du côté d'Arsenal, Kieran Tierney. Et puis Everton, ils ont essayé le cas Zaha, ça a fait flop, ils vont chercher Alex Iwobi derrière, ils s'entêtent.
Lorsqu'on a vu Zaha rester à Crystal Palace, on s'est dit bah finalement ils vont continuer avec Moise Kean seulement, leur seul recrue. Et bien on a appris là, pareil, ça a été officialisé à 21h. Iwobi quitte Arsenal pour rejoindre donc les Gunners, un contrat jusqu'en 2024. On part d'une indemnité de transfert se situant entre 25 et 30 millions d'euros.
Bah, c'est beaucoup moins cher que Zaha, mais c'est beaucoup moins bon aussi.
Ouais.
Moi je pense quand même que Wilfried Zaha, alors
on parle. En plus c'est un buteur Zaha.
Non, c'est un joueur qui joue ailier.
Il joue
sur le côté à Crystal Palace à gauche, mais il rentre beaucoup sur son pied droit, un peu comme fait Mbappé à Paris. Et donc moi j'aime beaucoup Wilfried Zaha. Maintenant on sait qu'il est anglais.
Ouais.
Donc il est plus cher, ça on l'a bien compris. Et donc voilà, c'était peut-être plus simple d'avoir Iwobi qui était quand même la moitié du prix d'après ce que j'ai compris.
C'est ça, entre 35 et 40 millions d'euros.
Everton, en tout cas, à l'intention de jouer les troubles,
Sidibé, c'est un recrutement intelligent. Sidibé, Kean. Recrutement intelligent du côté
de France. Kean est le top 6.
Sidibé, ça reste à prouver, mais faut qu'il se relance.
Oh, ça peut le faire.
Un grand frère. En tout cas, on aura des francophones. On aura du lien avec les Toffees. Très mauvaise nouvelle pour Leroy Sané.
Et oui, Leroy Sané, on parlait de lui du côté du Bayern Munich. Ça risque de ne pas se faire puisque la nouvelle est tombée aujourd'hui. On pensait que c'était une entorse suite à sa blessure au Community Shield. Finalement, non, c'est une rupture des ligaments croisés du genou droit. Donc, son indisponibilité est estimée entre 6 et 9 mois.
Andy Carroll, il a 96 ans, il retourne à Newcastle. Qu'est-ce qu'ils nous font Châteauneuf là?
Pareil.
Ça ressemble au Newcastle d'il y a 10 ans. Où
pareil, Carroll formé à Newcastle.
Ils ont toujours fait ça.
Oh,
et beaucoup de Français aussi.
L'oseille dans tous les sens, c'est n'importe
quoi. Sur beaucoup de Français aussi.
Ah ça, des Français mauvais, ils en ont pris une tripotée.
Bon, là, ils ont pris à la
chance. Je pense que les dirigeants de Newcastle, ils doivent avoir des origines françaises.
Et la liste des
Châteauneuf, québécois, c'est tabarnak.
La liste des clubs français qui se sont rincés sur le dos de Newcastle, ça ne doit pas être mal non plus. Qu'il y en a comme joueurs français qui sont allés se cracher.
Et un bon, je pense qu'il y a Saint-Étienne.
Aubertin. Il y en a eu des bons, Gambi, Cabella.
Oberton le met catégorie joueur de foot alors maintenant.
Ah, oui. Allez-y si vous le souhaitez. Il y a Aidara, CV. Il y a un FC Talon qu'on peut placer, Cabella.
Il y en a pas mal.
C'est Gessel, j'ai complètement oublié.
Pas mal de Français qui sont là.
La meilleure carrière, c'est Kabaï.
Ben Arfa.
Kabaï, ouais.
Bon, Ben Arfa, ça va.
Sissoko aussi. Sissoko a marché là-bas.
J'ai eu de la vie. Kabaï. Il a mis un coup de chausson.
Debuchy.
À Thème, c'est sa fracture au tibia.
Debuchy aussi, non?
Debuchy à
Newcastle.
Ouais, Sissoko.
Tu fais un 11 presque.
Moussa Sissoko, ça a bien marché à Newcastle aussi.
Ah oui, lui, un peu.
Bon, après, avant, il y a eu Robert et Ginola, mais là, ça avait bien marché.
Donc, Andy et Carroll qui revient à Newcastle, là où il a été formé, lui qui est formé donc à Newcastle, et qui revient.
Andy
Carroll, exactement.
Sans déconner.
Il est à West Ham. Il est libre depuis sa fin de contrat à West Ham,
donc il vient ici.
C'est le grand avec le 4 au grand, les amis. Il a toujours les cheveux longs.
Il va remplacer Random.
Il a les pieds dans la boîte.
Il est. Sa meilleure saison ces derniers temps, c'est comme Christophe Dugarry, c'est 9 buts. Mais il en a mis une saison 17 à Newcastle il y a une dizaine d'années. Donc tu ne sais jamais.
Mais oui,
merci Oussem, on va justement essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il y a eu 1,4 milliard dépensés, l'an dernier, le lapsus révélateur. On est avec Vincent Chaudel. Bonsoir Vincent. Ça a été dépassé.
Bonsoir.
J'ai envie de dire allègrement encore cette année, cet été.
Oui, il est dépassé. Alors, on pensait qu'il aurait peut-être du mal à être dépassé parce que les prévisions annoncées jusqu'ici sur les derniers mercato d'été, on était autour de entre 120 et 150 mouvements, transferts. Et là, les estimations avant le mercato est tournée autour de 75 à 80 mouvements. C'est d'ailleurs pour ça que la Ligue avait ramené la fenêtre du mercato à la première journée de championnat, c'était d'essayer de réduire le mouvement, parce que même si les clubs anglais sont les plus riches en termes de chiffre d'affaires, tous les clubs anglais ne sont pas nécessairement en bonne santé financière. Et c'est ça qui me semble intéressant à pointer du doigt, parce que vous venez de l'évoquer, notamment avec le cas de Newcastle, les clubs anglais, et surtout les clubs de deuxième partie du championnat anglais, sont nos meilleurs clients, nous, Ligue 1. On a pour l'habitude de leur vendre beaucoup de joueurs. Quand ces clubs commencent à avoir quelques difficultés, ben mécaniquement ou par effet de domino, ça impacte notre Ligue 1.
Vincent, les entraîneurs souhaiteraient que le mercato français s'arrête là aussi, juste avant Monaco-Lyon. Les présidents, non, eux non, puisqu'effectivement, c'est excédentaire. Je fais l'ingénu parce qu'on en a parlé avec Kevin tout à l'heure. Mon budget est de 100 millions. Mais je vends pour 250 millions. Pourquoi je dis pas que j'ai un budget derrière qui est de plus de 150 dépassé? Comment ça se concrétise derrière?
Il y a la dette.
Hein. C'est ce qu'on appelle en gestion ou en comptabilité des résultats exceptionnels. C'est-à-dire que je peux acheter et vendre. C'est ce qu'on appelle la partie du trading. Et ce n'est pas l'activité de base. L'activité de base, c'est de vendre des billets, de vendre du sponsoring, d'encaisser les droits télé et de l'autre côté, de payer des salaires. Là, on est sur une activité hors norme, en dehors du cycle. C'est un peu comme, RMC qui viendrait à faire une plus-value sur sa flotte de véhicules pour ses journalistes. Ça peut être intéressant, mais c'est un coût que l'on peut pas reproduire tous les ans ou de façon incertaine.
Si j'essaie d'aller au bout de la rue sur le dos d'Oussem, je vais pas très loin, il est pas très costaud. Hein. Attention, méfie-toi.
J'ai peut-être pas pris le bon exemple avec la flotte de véhicules.
Excuse-moi. Revenons parce qu'il a. Vincent a dit quelque chose avant.
Donc tu l'as coupé pour une bêtise.
Non, on a passé trop vite dessus parce que t'as enchaîné avec autre chose. La fin du mercato, le 8 anticipé en Angleterre. Derrière cette décision, il y avait une raison économique.
Oui, parce que. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, et on vient de l'évoquer pour les entraîneurs français, il y a une raison d'équité sportive, c'est-à-dire que tout le monde part à un moment donné avec les mêmes effectifs et on part au moins jusqu'au mercato d'hiver, c'est-à-dire pour la demi-saison, et comme ça, c'est plus fair-play pour tout le monde. Mais il y a une autre raison, c'est que là, si je prends divisons la première ligue entre le Big Six, les gros clubs, et le reste de la population. Si on regarde là sur les dernières années, dans le Big Six, il y a 3 clubs sur 6 qui génèrent des profits. Donc ça veut dire 50%. Et on peut comprendre, hein, Manchester United sous l'ère Mourinho a investi pas mal, donc ça pouvait être un des clubs déficitaires. Mmh. Mais sur les 14 autres, il n'y en a que 5 la saison passée qui ont pu atteindre des profits. Ouais. Ça veut dire quand même qu'ils ont dépensé. Et si on regarde ces clubs-là, pourquoi ils ont commencé à être dans le rouge, économiquement parlant? Eh bien, c'est parce que la masse salariale est passée de 50%, de 55% de la part du chiffre d'affaires à 67%. Donc, ils ont beaucoup acheté et la Ligue a commencé à s'inquiéter. La solution qu'elle a trouvée, c'est de réduire le temps de mercato. Mécaniquement, si j'ai moins de temps, j'ai moins de temps pour faire de dépenses, j'ai aussi moins de temps pour laisser le jeu de la surenchère.
Tu lui réduis la période des soldes, quoi.
Voilà. Tu lui coupes sa carte.
Sur la réduction
des périodes de surenchère, Kevin, vas-y. Kevin.
Ouais, moi Vincent, je voudrais avoir votre avis donc d'expert sur le domaine économique, parce que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on se bat un peu, ou en tout cas moi je fais partie de ceux qui se battent contre l'idée reçue qu'aujourd'hui les joueurs n'ont plus de prix. Que les prix sont fixés par, on va dire, le marché de l'offre et de la demande, et qu'on peut plus émettre un jugement de valeur sur le fait qu'on pense qu'un tel ou un tel. Alors ça a commencé avec Neymar, bien sûr, où moi j'expliquais que pour moi Neymar à la base ne valait pas 222 millions d'euros puisque c'était une clause qui était faite entre guillemets pour protéger le contrat du joueur, même si ça n'a pas été le cas, ok. Et donc aujourd'hui, je disais que c'est pas parce qu'un jour il a été acheté 222 que aujourd'hui il vaut
c'est
au moins autant.
Lukaku, bon ou mal en
maintenant, juste pour finir.
De dire c'est le bon prix ou pas le bon prix, puisque tu le payes avant et tu sais pas ce qu'il peut te rapporter.
En tout cas aujourd'hui, le PSG a du mal à le revendre. C'était pour l'exemple Neymar. Maintenant, parlons des clubs anglais. On me dit mais les clubs anglais, ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais non, en fait, ils font pas ce qu'ils veulent, parce que parlons par exemple de Manchester United. Manchester United, ça fait 3 saisons. Je pense que personne pourra me contredire. Je dis 3 saisons pour pas dire 10. On va en gros depuis qu'Alex Ferguson n'est plus là, qui font absolument n'importe quoi avec leur argent. Donc c'est pas parce qu'ils ont décidé d'acheter Lukaku une fois à 90 millions que on est obligé de dire ah mais on peut pas dire que c'est trop cher parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Non, moi j'ai le droit de juger que Lukaku à 90 millions c'est complètement déraisonnable et ça participe à une certaine inflammation des prix qui n'est pas du tout entre guillemets réaliste par rapport au niveau du joueur. Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce qu'aujourd'hui le football n'est plus un sport? Et c'est tout simplement une économie avec des paramètres qu'on maîtrise pas forcément. Hein, on sait, hein, les intermédiaires, les agents, les ceci, les cela. Et aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut et personne n'a le droit de rien dire.
Juste avant que Vincent ait la parole, juste un mot. Le seul truc que tu n'as pas dans ton raisonnement, c'est que tu ne peux pas dire qu'un joueur de foot, son rendement n'est que sur le terrain. Tu oublies de dire ça.
Voilà.
Dans le cas de Neymar, le rendement, comme Ronaldo dans l'opération financière qui est faite pour la Juve,
et quand le rendement se retourne
avec la pub et tout le business,
quand le rendement se retourne.
Non mais attends, au préalable, il y a des mecs qui anticipent le prix et qui se disent il pourrait être rentable pour plein d'autres.
Bon, c'est pas pour ça qu'ils ont raison. C'est pas pour ça qu'ils ont raison. On est d'accord que c'est pas pour ça qu'ils ont raison.
Mais ça, tu le sais après.
Pour certains joueurs, on peut le savoir avant aussi.
Vincent.
Alors, un club, un joueur, c'est comme une maison. Il y a une offre, il y a un marché. Quand vous êtes vendeur et que vous avez besoin de vendre rapidement, c'est pas là où vous faites les meilleures affaires. Quand vous êtes acheteur et que vous êtes vous avez besoin vraiment d'une maison, d'un club ou d'un joueur, c'est pas là où vous faites les meilleures affaires. Voilà. Quand un club comme Manchester United, qui n'est pas à la rue financièrement, même s'il rate sa qualification pour la Coupe d'Europe, à un joueur comme Pogba qui décide que c'est important pour lui, même si le Real Madrid est prêt à mettre beaucoup d'argent, bah ils vendent pas.
Ça c'est important, Vincent, parce qu'on aura Fred tout à l'heure. On veut l'avis de Fred Hermel là-dessus et son prisme de Real. Justement, est-ce que Pogba, maintenant qu'il n'a pas bougé aujourd'hui, selon toi, ne bougera plus.
Je voulais qu'il termine sur la valeur des mecs, moi, mais bon.
Okay. Bah, la valeur de Pogba, justement, ça répond à ça aussi.
Non, enfin, si je vais jusqu'au bout du raisonnement sur la valeur des joueurs, et après on peut revenir sur Pogba.
Ouais.
Il y a deux dimensions. Il y a la valeur sportive intrinsèque du joueur. Et je comprends ce que veut dire Kevin, que les prix flambent aujourd'hui et on a l'impression qu'il n'y a plus rien de réaliste. Il y a la qualité du joueur, il y a la rareté du joueur.
Ça, d'accord.
Là, par exemple, le PSG souhaiterait avoir un top gardien, par exemple. bah, un top gardien, il n'y en a pas beaucoup de libres sur le marché, oui. qui fait qu'un top gardien qui valait peut-être 50 hier, bah, va valoir 80 ou 100 demain. Donc c'est la mécanique de l'offre et de la demande. Donc il y a le talent, il y a la situation de marché, la rareté, et puis il y a le potentiel marketing. Et effectivement, un joueur comme Neymar, alors aujourd'hui on le critique beaucoup. Ben, et pourquoi on le critique? Parce qu'il joue pas, tout simplement. Dès qu'il va rejouer, sa valeur marketing va reprendre.
Bien sûr, c'était juste un exemple.
Je vais prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a eu son affaire l'année dernière de viol qui est remontée à la surface, et on pensait que ça allait l'impacter. Mais il a fait une saison, une très très grosse saison. Plus personne n'en parle. D'ailleurs, l'affaire a été classée depuis. C'est-à-dire que Neymar, on en parle aujourd'hui parce que sportivement, il n'est pas sur le terrain, il marque pas de but. Non,
Vincent, quand tu parles de Neymar, je suis bien sûr conscient que Neymar, financièrement, pour le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas perdu d'argent.
Ah ben vous
je parle derrière de plus de l'image que ça peut apporter. Mais moi, j'adore Neymar. Je suis un grand fan. Je suis un fan absolu. Donc c'est pas un souci que Ronaldo. Je sais bien que on va me dire, ouais, mais c'est pas les joueurs comme Ronaldo et Neymar qui posent problème. C'est les joueurs moyens qu'on vend 50 millions. Mais là, je suis complètement d'accord. Sûr, maintenant, ça. Vous avez parlé de l'offre et de la demande. Vous avez parlé, par exemple, du marché de l'immobilier ou de l'automobile. Mais en immobilier et en automobile, il y a un paramètre que personne n'oublie, ça s'appelle les arnaques. Et dans le football, ça existe aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
Il ne faut pas oublier que l'arnaque n'existe pas. Bien sûr que non.
Non, mais c'est pour ça qu'on a quand même encore le droit de dire.
Quand tu gères ta maison ou quand tu vas acheter le pain, c'est toi, si tu sens que t'es en train de te faire arnaquer, bah, tu te fais pas arnaquer. Et si tu te fais arnaquer, bah, ça arrive à tout le monde.
D'accord.
Et comme les clubs de foot se trompent sur les joueurs. Et effectivement, comme tu disais, c'est souvent sur les joueurs moyens.
Bien sûr.
Que tu peux, mal ou plus ou moins mal évaluer la valeur du joueur.
Mais est-ce que c'est sur les gros joueurs qu'on ouvre la boîte de Pandore? Et ensuite, c'est les joueurs moyens et les clubs moyens qui en pâtissent.
Et après, c'est au mec qui gère son club de ne pas faire de conneries.
Donc, on a encore le droit de dire que certains joueurs sont achetés à des prix déraisonnables. Enfin, en tout cas,
oui,
c'est mon avis.
Oui, mais en fait, dans le football, on est en train de se rendre compte que le football réagit comme beaucoup de secteurs économiques. Ça se polarise. On met de plus en plus d'argent sur du très haut niveau et de moins en moins sur du moyen. Et c'est ça qui risque de se passer. On voit que pour cet été, l'OM cherchait un attaquant. C'est soit un top attaquant et il faut mettre entre 50 et 150 ou 200, ou à la limite, il n'y a plus de limite justement, ou alors bah, on a un nombre assez important de joueurs entre 5 et 15. On n'est pas sûr de faire la bonne
chose. Vincent, c'est pour ça que moi vraiment ça m'inquiète, dans le sens où c'est très dangereux, entre la ligue fermée que les plus grands clubs veulent, entre les clubs de championnat moyen qui sont comme nous aujourd'hui, la Ligue 1 et d'autres championnats, en fait les gens vont finir par se désintéresser. Parce que alors au début c'était un football business. Alors au début c'était le football.
Ça je crois pas trop.
Même les matchs de Ligue des Champions, il y a un moment quand tu vas avoir l'impression que c'est juste une ligue fermée et qu'il y a plus aucun club.
Mais ça
Kevin, enfin moi je suis pas là pour faire l'avocat de la ligue fermée.
Mais faut quand même alerter parce que il y a quand même beaucoup de gens qui en ont un peu marre. Voilà, qui en ont un peu marre de voir que c'est que pour les gros et que les petits pays doivent faire 12 tours de préliminaires pour aller en Ligue des Champions et que tu verras plus des Glasgow Rangers, tu verras peut-être plus un jour des Porto.
Ouais,
On va passer aux sportifs avec Julien Laurence dans un instant. Ouais, le mot de la fin avec toi, Vincent. Daniel, on change de place si tu veux.
Non, mais
il y a des choses que tu veux entendre et pas entendre ce soir.
Je veux qu'il y ait la place à Julien là-dessus.
Il le peut, c'est pour ça que je disais, on va te laisser le mot de la fin, mais on passera au sportif derrière. Vincent.
À moi, le mot de la fin.
Bah, effectivement, il y a quand même cette tendance, juste pour recadrer, parce qu'on parle de l'Angleterre, vous êtes parti loin, mais je voudrais qu'on revienne sur l'Angleterre. T'as ces petits clubs, puisqu'on en a parlé, Watford, Ismail Assar, tu veux impressionner le top 6, mais ça fait pas vraiment une grande cohésion. À l'arrivée, 20% de tes recrues jouent moins de 10 matchs, 30% seront prêtés. Donc sur cette inflation-là un peu folle, le carburant ou le rendement, il n'est pas toujours là.
Oui, évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses à réguler. Ce qui me semble important, si on reste sur l'actualité qui est la clôture du mercato en Angleterre, les Anglais l'ont fait pour essayer de réguler leur propre économie. Et comme c'est le pays qui donne le la, parce que économiquement c'est le plus puissant, ça réorganise les choses. Ce qui me semble intéressant aussi sur ce mercato-là, c'est que les clubs qui ont des joueurs sous contrat et qui ont décidé de ne pas les lâcher, exemple Pogba avec Manchester, bah, ne les lâche pas. Et ces derniers temps, les grands clubs, je pense au Real ou au Barça, quand ils avaient décidé d'avoir un joueur, ils étaient capables de discuter avec le joueur pour qu'il crée la pression chez son employeur, chez son le détenteur du contrat. Et ça, ça me semble intéressant de remettre, et si on parle de Ligue fermée, ce que Kevin a évoqué tout à l'heure, aux États-Unis, on ne parle pas de montant de transfert. Il y a des contrats, et puis après, on peut les échanger, mais le joueur qui est dans telle ou telle franchise, il reste jusqu'à la fin de son contrat, sauf si l'employeur décide de le changer. Et il y a un retour, ce qui me semble intéressant,
c'est un retour global pour un nombre d'années,
du pouvoir de décision du club qui détient le joueur aujourd'hui.
Ça, ce serait bien que les clubs reprennent le pouvoir.
Bah, ça me semble intéressant, et il n'y a que les clubs puissants financièrement qui peuvent se le permettre. Quand oui, vous devez faire forcément la vente pour équilibrer vos comptes, bah, oui. Eh bien, vous lâchez. Les clubs anglais, ou du moins ceux du top 6, ne sont pas obligés de faire la vente. Donc, ils sont prêts à attendre.
C'était l'éclairage de Vincent Chaudel sur ses conséquences économiques de la Première Ligue. Dans un instant, on va parler du sportif.
Salut Vincent.
Qui se renforce
à bientôt.
Vraiment ? Qui fait un coup, mais c'est un trompe-l'œil. Et puis les Gunners changent-ils de stratégie ? Julien Laurence, notre ambassadeur en Angleterre. Dans un instant, vous écoutez l'After sur RMC.
RMC, l'After Foot, Thomas Desson.
Vous êtes dans la dernière demi-heure de l'After jusqu'à minuit. On ira évidemment en Espagne avec Fred Hermel. Pogba ne bougera pas pour l'instant. Est-ce qu'il bougera d'ici au 2 septembre prochain ? On aura l'avis de Fred Hermel. Mais tout de suite, messieurs, Kevin Diaz, Daniel Riolo. Je ne sais pas s'ils sont en train de parler de tennis ou de recrutement.
Ah, il me lance des défis pendant la pub.
Ouais. Bah, écoutez, on va faire un passing avec Julien Laurence qui est avec nous. Bonsoir Julien, on s'est focalisé sur Liverpool, sur City, et c'est un petit peu en dessous que ça a vraiment bougé ces derniers temps, notamment à Arsenal. Salut Julien.
Salut à tous, oui, Arsenal, salut, et Tottenham. Et Tottenham aussi, Tottenham qui a aujourd'hui recruté plus de joueurs que lors des trois derniers marchés des transferts réunis. C'est-à-dire que les deux arrivés aujourd'hui, c'est Seignon et Lo Celso, et bah c'est plus que lors des trois derniers, puisque avant il y avait que Ndombele et puis rien au mois de janvier dernier et rien l'été dernier non plus. Donc bravo à eux pour une journée assez spectaculaire.
Ça va être un crazy derby évidemment entre Arsenal et Tottenham. J'étais en train de regarder, Julien, faut dire que l'année 2019, je parle l'année calendaire de Tottenham, à l'arrivée, c'est quand même, messieurs, 13 défaites en championnat. C'est autant que Marseille. Et pourtant, on se dit, les Hotspurs ont réalisé une belle saison. Enfin, il était temps qu'elle se termine. Donc, il faut du renouveau.
Oui, ils avaient besoin, c'est sûr, de se renforcer. Hein. Hugo Lloris l'avait notamment dit juste après la finale de la Ligue des Champions perdue. Il y a un moment où tu peux plus progresser en tant qu'équipe, en tant que groupe, en tant que club, simplement en faisant, en améliorant les joueurs que tu as. Pochettino est un superbe manager qui fait progresser ses joueurs, mais il y a un moment où lui-même avait besoin de renforcer son effectif, d'avoir des joueurs un peu différents, avec des profils différents, des joueurs sûrement meilleurs, plus jeunes, plus puissants, plus techniques, avec une meilleure vision que ce qu'il avait déjà. Et c'est pour ça qu'à un moment, pour continuer à grandir, il fallait que Tottenham dépense de l'argent. Ils avaient de l'argent, ils ont su trouver des montages financiers aussi, comme pour Lo Celso par exemple, qui finalement leur coûte pas très cher puisqu'il est d'abord en prêt avec obligation d'achat, mais que l'été prochain, ça c'est un très joli coup. Ryan Sessegnon, qui est un des petits prodiges anglais qui n'avait plus qu'un an de contrat à Fulham, c'est pareil, c'est un très joli coup financier. Donc ils ont su s'adapter aussi au marché.
Il y avait des besoins sur les latéraux à Tottenham.
Sessegnon peut jouer ailier gauche ou latéral gauche. Mais c'est vrai que Danny Rose et Ben Davis, c'est pas non plus exceptionnel à ce poste-là, au poste d'arrière gauche. Et je pense que Sessegnon va leur faire beaucoup de bien. Et je pense que Pochettino va faire de Sessegnon un très très bon joueur.
Très bien.
Est-ce que pour vous c'est embouteillage ou c'était renouveau nécessaire, messieurs, au Julien, poste de milieu offensif comme ça?
Faut pas oublier qu'avec ce nouveau stade, qui leur a coûté quand même beaucoup d'argent, d'après ce que j'ai compris, et donc ils n'avaient pas recruté à l'intersaison dernière, ils avaient gardé leur effectif quasiment intact. En tout cas, ils n'avaient pas fait d'addition de nouvelles recrues au mercato estival dernier.
Non, l'année dernière et en janvier non plus.
Voilà. Donc
le dernier joueur, c'était Lucas Moura.
À la fin de cette saison, une saison qui a été quand même exceptionnelle. Hein. Thomas, t'es dur avec Tottenham.
Non, je te dis que simplement, on descend le cinquième de Ligue 1 avec 13 défaites. On a encensé le quatrième de Première Ligue avec 13 défaites.
Ils ont fait finale de Ligue des Champions.
Mais oui, non, mais c'est pas ça.
Ta comparaison, il n'y a pas de bout une seconde.
Non, la fin de saison, il est temps qu'elle arrive. C'est parce que. Attends.
Tu ne veux pas faire des parallèles comme ça.
Si, je vais te le faire. Je vais te dire que Tottenham est deuxième jusqu'en février et ils s'accrochent à leur quatrième place.
Tottenham, ils font une saison où déjà ils se révèlent alors que ça n'a jamais été un club que l'Europe a regardé réellement en Angleterre, où c'était Manchester United, Liverpool, Arsenal, City depuis quelques années. Tottenham venait un petit peu en termes de notoriété derrière ces clubs-là. Cette année, ils ont fait un match que toute l'Europe a vu complètement dingue contre l'Ajax. Derrière, ils font finale. Bon, ils la perdent très logiquement. Ils se qualifient à nouveau en Ligue des Champions. Ils ont un entraîneur charismatique qui fait bien jouer cette équipe.
Très bien.
Et donc, on parle de Tottenham maintenant comme un gros club, alors qu'avant, on n'aurait même pas fait 5 minutes dans l'émission sur Tottenham. Viens pas me comparer avec une équipe qui en Ligue 1 a perdu 13 matchs.
Ça reste une fabuleuse réussite. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'effectivement, avec cette adversité qu'il y a, eh bien, ils se sauvent et ils sont en Champions League cette année pour un point devant Arsenal.
On va dire qu'ils ont un peu moins bien fini, c'est vrai, parce qu'il y a un moment
où ils étaient quand même
à la lutte pour le titre après le Boxing Day Tottenham. Mais après ils ont recruté,
mais dans ce recrutement, t'as pas de grandes vedettes comme les clubs anglais ont l'habitude de le faire.
Ndombele, c'est cher.
Kane, c'est le joueur le plus cher d'Angleterre. Sauf que quand il se blesse, on met Son, etc. Et on a dû bricoler.
Quand tu recrutes Locelle, Dombélé, Ryan Sessegnon, tu prends pas de la star internationale.
Non, tu prends des joueurs qui vont se rendre bien dans un collectif.
Très bien ton effectif. Tu refais ton milieu de terrain. Voilà. Oui. L'équipe continue à
avancer.
Pour finir sur le cas Tottenham, effectivement, on parlait des latérales. Trippier qui part à l'Atlético, il y avait des soucis.
Mais ce transfert-là, Trippier à l'Atlético, je l'ai trouvé complètement fou. Déjà, les Anglais partent encore moins en Espagne. Mais là, je sais pas, bizarre ce transfert.
Il y avait des problèmes extra-sportifs, et ça a été dit.
Je sais pas s'il y avait des problèmes extra-sportifs. En tout cas, j'ai pas entendu parler d'histoire autour de Trippier. Je pense que simplement, il faisait plus trop partie véritablement des plans de Pochettino, ou en tout cas, surtout, ils ont vu que l'offre de l'Atlético à 20 millions d'euros. Pour un joueur comme Trippier, tu prends et puis tu réinvestis après une partie de cette affaire-là pour.
Si je dis pas de bêtises, Julien, si je dis pas de bêtises, on parle de Trippier qui a quand même été meilleur latéral droit de la Coupe du Monde, non?
Oui, mais qui a fait une très mauvaise saison la saison dernière avec des blessures et son niveau de jeu avait quand même assez largement chuté.
Ouais, mais bon, derrière, ils ont pas grand monde quand même.
Non, c'est vrai que en tout cas au poste de latéral droit,
il va être titulaire.
Ils ont Sergio, effectivement, notre ami. Ils ont un jeune anglais aussi.
Je vous la donne l'info, mais l'information qui a été recoupée à la rédaction des RMC Sport TV, qui prépare la Première Ligue, c'est que de temps en temps, il avait une odeur de C2H5OH le matin, qui est un Trippier. Donc il y avait un souci à ce niveau-là.
Oui, c'est possible. Hein, C2H5OH, c'est très possible aussi.
Non, je sais pas ce que
L'alcool.
Ah, d'accord. Ah, mais tu parles en code aussi.
Parce que je voudrais te faire sortir.
Enfin, c'est pas le premier joueur anglais qui picole un peu quand même.
Mais c'est peut-être pas une plus-value que quand même.
Donc ils ont qui à ce poste maintenant à Tottenham?
Donc Serge Aurier, Walker Peters, donc le jeune anglais très prometteur, ouais. Mais encore un peu jeune. Et qui est pas mal, effectivement, qui a un très bon avenir devant lui. Et puis Juan Foyt, l'Argentin qui avait failli signer au PSG, qui est plus un défenseur central, mais qui peut aussi dépanner au poste derrière droit, qu'il a fait la saison dernière notamment. Mais à un moment, tu peux pas non plus.
Il ne pouvait pas doubler
tous les postes non plus.
Un bon centre de formation, les Spurs.
Très bon centre de formation.
Parce qu'on me dit souvent, quand je dis ça, on me dit ouais, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs du centre de formation, l'équipe première. Bon, en Angleterre, on sait que la première ligue est tellement à un niveau élevé que pour un jeune qui arrive à 18 ou 19 ans tout de suite s'intégrer, c'est pas facile. Mais bon, ça arrive de plus en plus.
Harry Kane. Centre de formation, c'est difficile de faire mieux que
Harry Winks.
Et Harry Winks aussi, ouais.
Julien, je voudrais qu'on passe aux voisins du nord de Londres. Il y avait un sondage que j'ai regardé sur BBC ce matin. Ils te mettent Arsenal, les supporters, les suiveurs, les fans, quelques pundits, les experts. Ils te mettent Arsenal hors du top 6. Ils y vont dur. Pourtant, j'ai l'impression que les Gunners ont remis de la poudre à canon. Là, il y a des dépenses, il y a un changement d'époque qui s'entame, non, à Arsenal.
Ouais, tout à fait. Alors, hors du top 6, j'ai pas vu aujourd'hui. Hein. La plupart des consultants ici les mettent dans le top 4 quand même, ouais, parce que c'est vrai que quand tu regardes Chelsea et Manchester United, ils se sont moins bien préparés qu'Arsenal quand même cet été. Quand tu regardes les arrivées,
tu as raison, ça date de 24 heures mon sondage là. Ouais.
Ouais, non, parce que c'est vrai que perdre Lukaku, par exemple, pour Manchester United, sans le remplacer, qu'on aime Lukaku, qu'on l'aime pas, qu'on pense que c'est un grand joueur ou pas un grand joueur, c'était leur meilleur buteur, et le fait de pas le remplacer, c'est quand même assez incroyable pour un club comme Manchester United, de partir pour une saison pareille avec le seul Marcus Rashford comme vrai numéro 9, vrai avant-centre pour un club comme United, c'est incroyable. Et Chelsea, on le sait, un nouvel entraîneur en Frank Lampard qui est assez inexpérimenté, interdiction de recrutement, la perte d'Hazard, etc. Donc je pense qu'Arsenal a vraiment une belle chance de finir quatrième. Et c'est vrai que ce marché des transferts-là, alors qu'on les disait sans trop d'argent, avec un budget assez limité, ils s'en sont très très bien sortis. Je pense que Raoul Sagnelli, leur genre de directeur sportif, on va dire, en tout cas celui qui est en charge des transferts et de la partie football au club, mérite vraiment beaucoup de crédit pour ce qu'il a fait cet été, parce que Pépé, déjà, c'est excellent. Saliba, c'est une très bonne affaire, avec là en plus l'année en prêt à Saint-Etienne où il va continuer à s'aguerrir, c'est très bien. Le prêt de Ceballos, c'est excellent. Après, David Luiz, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tout dépendra de quel David Luiz ils auront, ouais, mais ça reste un joueur très expérimenté quand même. Et puis je pense que Kieran Tierney, pour les gens qui connaissent pas, l'arrière gauche du Celtic et international écossais, s'il reste fit, s'il n'est pas blessé, parce qu'il a eu quelques problèmes de blessure avant, c'est un très 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 bon joueur.
D'où Kieran Tierney, du Celtic, c'est ça?
Du Celtic,
oui. International écossais, c'est un jeune joueur, il a 23 ans, il a été formé au Celtic, c'est un arrière-gauche mais qui peut jouer aussi défenseur central gauche, qui est excellent avec le ballon pour aller vers l'avant, mais qui est un très très bon défenseur aussi, à 25 millions. Voilà, c'est ça, mais peut-être un peu plus robuste défensivement. Ouais.
Mais honnêtement, très, très le recrutement d'Arsenal, franchement, il donne envie de regarder ce que vont donner les Gunners cette année. Moi, David Luiz, voilà, c'est un joueur, je suis un peu un romantique du football, voilà, c'est un joueur qui est quand même, qui a cette élégance, qui même s'il est plus dans ses meilleures années peut-être au niveau physique, il a quand même cette technique, cette qualité de relance, et surtout cette envie quand même, la niaque, la grinta, il l'a.
C'est un petit moment que
il a été champion avec Chelsea il y a 2 ans quand même, bon.
Ouais.
Enfin, il y a 3 ans maintenant, mais bon. Mmh. Bon, il a été quand même, il a gagné l'Europa League, c'est pas rien. Bon.
D'accord, ok.
Bon, c'est quand même un joueur qui en tout cas partout où il va, il gagne des titres et qui est toujours bien aimé, avec une mentalité irréprochable.
Oui, ça, les supporters aiment bien.
Donc voilà, Nicolas Pépé, il y avait déjà quand même Lacazette et Aubameyang. Bon, ils vont s'en défaire d'Ozil ou pas?
Non. Voilà, là comme ça, même s'il part pas, il joue plus là.
C'est compliqué, mais là, ce qui va être vraiment intéressant, et c'est là où on verra aussi le talent d'Emery ou pas, c'est qu'il va falloir trouver la meilleure formation et la meilleure solution pour ces joueurs-là. Parce que David Luiz, sincèrement, son meilleur poste, c'est en libéro dans une défense à 3. Ouais, ça, c'est clair, vrai. Où il est protégé par ses deux défenseurs centraux.
C'est pas dans une défense
centraux.
À 4. Hein.
Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand il est champion avec Chelsea, comme tu en parlais, Kev, il est dans une défense à 3. C'est lui le libéro. Devant lui, il a notamment Azpilicueta qui fait tout le ménage. Il est tranquille derrière. Il coupe les trajectoires. Il récupère les ballons. Il fait ses relances parce qu'il est très bon sur les diagonales de 50 mètres, pied droit, pied gauche et tout ça. C'est très bien. Et voilà. Mais dans une défense à 4, c'est plus compliqué. Mais si tu joues avec une défense à 3, avec deux joueurs de côté, où est-ce que tu mets Pépé? Où est-ce que tu mets Aubameyang? Si tu veux faire jouer Aubameyang et Pépé, les deux en pointe, ce qui a très bien fonctionné la saison dernière.
Il peut faire un 3-4-3, s'il a les 4 à faire à mettre au milieu, il fait un 3-4-3.
Mais tu décales quand même Aubameyang sur le côté. Donc voilà, il va falloir
qu'Emery
trouve.
Mais devant, ça ne peut être qu'Aubameyang à gauche, Pépé en haut à droite et Lacazette en pointe. Je jouerais comme ça.
C'est vrai. Mais ça veut dire que tu décales Aubameyang.
Ça ne peut être que comme ça.
J'ai une idée qui me vient, mais moi, je suis pas sûr qu'ils ont perdu au change en perdant Koscielny, en prenant David Luiz.
Bah, il était fatigué, Koscielny. Donc non, t'as pas perdu au change, bien sûr.
C'est
non, mais
bon,
tu sais aussi.
Vas-y,
ça dépend de quel David Luiz tu récupères. Il a 32 ans, il a parfois ses sautes de concentration qui peuvent te coûter un but ou une occasion. Il y a ça aussi de son côté. Mais c'est vrai que s'il est dans un bon état d'esprit, c'est un très bon joueur, et dans un vestiaire comme celui d'Arsenal qui a toujours eu besoin de leader ces dernières saisons, il va t'apporter ce leadership qui peut être très important.
Est-ce qu'on sait pourquoi il voulait absolument venir?
Alors il s'est un peu embrouillé avec Frank Lampard ces derniers jours.
Ah ouais, donc c'est allé vite, hein, disons.
Ça allait vite, hein. Et surtout, ouais. Il s'est rendu compte qu'il jouerait très peu à Chelsea.
D'accord, oui.
Parce que il était, on va dire, en quatrième position, derrière Christensen, derrière Rudiger et derrière Zuma, dans la hiérarchie des défenseurs centraux à Chelsea.
Chelsea, ça va être compliqué de retrouver la Ligue des Champions. Hein.
Enfin, ça va être dur. Ça va être assez intéressant de voir.
De terminer dans les quatre à la fin de la saison, pardon. C'est ce que je voulais dire.
Ouais. Julien, on était avec toi depuis le début de la semaine. On a bien compris que ce serait Liverpool, Manchester City en 1 et 2. Arsenal et Tottenham pour les 3 et 4e places sur le papier pour être pragmatique. Chelsea interdit de recrutement et Manchester United cette année plus rien comprendre. On te retrouve demain du côté d'Anfield Road dès 20h pour le lancement de la saison et le match sur RMC Sport 1 entre Liverpool et Norwich. Notre ambassadeur Julien Laurence qui était avec nous. Merci Julien.
Merci.
À 18h, Marca titrait Adios Pogba, hola Neymar. Au revoir Pogba, bonjour Neymar. La vie plus approfondie de Fred Hermel, c'est dans un instant dans l'After. A tout de suite.
RMC, l'After Foot, Thomas Desson.
Oui, les auditeurs, au 32-16, allez-y, réagissez. La dernière ligne droite jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo, avec Fred Hermel. On va faire une page royale. Mais avant de faire 100% Real, messieurs, finalement. Bonsoir Fred. Coutinho n'est pas parti du Barça.
Ah mais rarement les amis, la fermeture du marché anglais aura eu autant d'influence négative sur le recrutement des clubs de la Liga. Parce que c'est vrai que. Et il y a une influence directe aussi pour le PSG. Aujourd'hui, il semble très compliqué que le Paris Saint-Germain puisse vendre Neymar au Barça. Barça n'a pas l'argent. Ils n'ont pas réussi à vendre Coutinho. Alors, je sais pas dans quel championnat il pourrait vendre Coutinho. Alors, il y a deux argents différents. Déjà, le montant du transfert, il avait coûté 160 millions déjà. Donc, il voudrait récupérer un peu d'argent là-dessus, sur l'achat lui-même, plus le salaire du joueur. Parce que c'est pas possible de payer Messi, de payer Griezmann, de payer Coutinho et Neymar. Donc, aujourd'hui, la possibilité.
Mais Neymar, il va venir chez Neymar. Toi. T'as pas préparé ton salon encore?
Oh bah, tu sais, Neymar, il faut un salon avec
le ménage
de musique,
toi, tu vois, t'as fait quelque chose, quoi.
Non, en plus, la femme de ménage, elle est en vacances, là, mais.
Ah, bah, rappelle-la, parce qu'il va pas tarder à arriver, hein, quand il passe à la maison, il faut que ce soit nickel.
Tu sais,
hein.
Daniel.
Le barbecue, tu l'as nettoyé un peu, là, dans le patio, devant chez toi, là.
Ouais, mais moi, j'ai des barbecues plutôt argentins, pas les trucs brésiliens.
Pas la churrasqueria.
Ouais, pas sûr, ouais, c'est ça.
Non, mais... le salon, là, on met un peu les fauteuils bien comme il faut devant, là.
Fred, avant de te laisser répondre, mais quand même, depuis le début, en vrai. Alors, je sais que Neymar, il est très ami avec Messi et Suarez. Ok, on a compris, mais Neymar, il veut un club à sa dimension. Il veut être la star d'une équipe. Il veut être dans un nouveau projet.
C'est Real.
Quoi de mieux que le Real Madrid depuis le début, en vrai, pour Neymar?
Faites content.
Alors lui et tous les gens avec qui je parle, qui connaissent bien Neymar, me disent que lui, il ne rêve qu'une chose, c'est revenir au Barça. Piqué, ils ont joué un match contre Napoli là aux États-Unis, ils étaient à Miami et Piqué à la conférence de presse d'avant match.
Ouais, il en a parlé, tout le monde parle.
Il a parlé,
ça,
il faut
ouais.
que Neymar envoie un signe et tout ça, parce que Piqué, qui connaît très très bien cette histoire, sait que si jamais Neymar va au Real, mais c'est le coup de Figo en 2000 quand t'arrives Florentino Pérez.
Pas comme ça.
Ouais, directement. Attends, vu d'ici, vraiment. Daniel, et tu sais l'exagération ouais, qu'il y a dans nos pays latins.
Après avoir autant parlé du Barça, s'il va au Real, oh, putain.
Mais c'est comme si la mauvaise préparation de saison du Real n'existait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Moi, je vous assure, les amis, et je suis sûr que vous allez me faire confiance, que si le Real n'avait pas pris 7-3 contre l'Atlético, eh ben, on parlerait pas Neymar au Real aujourd'hui.
C'est mais là, Florentino, il va envoyer un gros message, là.
On est d'accord quand même que beaucoup de gens pensaient, justement, qu'il était venu à Paris pour, alors je sais pas, c'est peut-être des histoires.
Oui, être la star, pas dans l'ombre de Messi.
Non, beaucoup de gens pensaient qu'il était venu à Paris pour faire un tremplin et pour ne pas passer, justement, pour pas faire une Figo du Barça au Real.
Il est allé à Paris pour l'argent parce que son père lui a dit, il faut aller à Paris.
Bon, mais par rapport au côté atténuer le cocktail Molotov et passer par Paris avant de faire un.
Ouais, mais non, mais le problème, c'est ces gens, non, mais je suis désolé, Kevin, mais ces gens-là ne pensent pas carrière. Ces gens-là ne pensent qu'argent.
Ah ouais.
S'ils sont
même
à Paris pour l'argent.
Même à ce niveau-là.
Mais oui, mais c'est, bah oui, non, mais là, je peux t'en prouver.
T'es né hier ou quoi?
Mais ouais, c'est.
Il y avait une envie de ballon d'or. sport quand même, mais c'est pour
mais non, mais il y a rien. Mais il y a pas de projet sportif.
Qu'est-ce qu'il est innocent, beau, mais ouais. Naïf, c'est Kevin.
C'est mignon, tu sais, Daniel, ils sont jeunes encore.
Incline-toi, incline, Fred, devant cette naïveté tellement séduisante, tellement.
Ah bah ça me rappelle ma jeunesse, c'est quand j'étais puceau, ça.
On dirait toi à 16 ans, Fred.
Il essaie de se battre pour jouer avec la Célestin, même s'il n'y arrive pas quand même.
Alors l'autre qui en rajoute, mais Fred, mais qu'est-ce qu'on entend,
Fred? Mais oui, on est vieux, Daniel, tu sais, on est dépassé. On était à football.
Oh là là.
Mais non, mais attends, mais
vous nous dites que vous êtes une nouvelle école et que vous pensez qu'à l'autre
des enfants de CM2 qui parlent
foot,
les gars.
Mais tu sais que Neymar, mais dans Neymar, il n'y a pas de projet sportif en disant, allez, je vais 2 ans au PSG, après je veux Real. Non. Ce qui se passe là, c'est que le Real, alors, moi je vous dis, le Real n'a pas parlé de Neymar avec le PSG encore. Simplement, le Real se dit, on a jusqu'au 2 septembre. Un moment ou un autre, le PSG, il va devoir brader, entre guillemets, Neymar s'il veut qu'il parte. Parce que, citez-moi un club aujourd'hui capable d'acheter Neymar et de payer son salaire.
On l'a dit, à part United qui fait n'importe quoi.
Mais c'est fini là, c'est fini, c'est fermé là.
Ah oui, maintenant.
C'est trop tard. Mais oui, parce que la question c'est.
Il y a le Bayern, là, j'imagine le Real.
Neymar au Bayern.
Non, mais c'est pas possible.
Non, mais tu me dis les clubs.
T'imagines Beckenbauer dire Neymar, Willkommen, non.
Est-ce que tu peux me dire.
Imagine Neymar avec le gilet, la fête de la bière.
Non, ça va pas.
Fred,
trop loin, du carnaval.
Fred,
j'ai vu Ribéry.
Daniel, est-ce que Fred, tu peux me dire, bon, même si je sais qu'il l'aime bien en tant que peut-être personne ou joueur, mais comment Zidane s'est pas rué sur Neymar, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas comment Zidane a choisi Hazard devant Neymar.
Que c'était pas jouable.
Mais non, mais parce que Zidane aime bien le joueur, mais n'aime pas l'entourage.
Mais il veut pas d'ingérable. C'est un ingérable.
Mais bien sûr. Ouais. Mais attends, mais là, on se prépare à un truc un peu compliqué. C'est-à-dire que Florentino Pérez. Alors, il faut rappeler une chose. C'est que Neymar avait passé la visite médicale avec le Real avant d'arriver au Barça. Mais Florentino Pérez avait senti l'imbroglio avec, il dit, ça va nous coûter 200 millions avec toutes ces histoires. Et on sait que le Barça a perdu un président après avec cette histoire. Mais même il y a 2 ans, quand le PSG était en train de négocier l'arrivée de Neymar, papa Neymar était en communication quasi permanente avec Florentino Pérez. C'est un joueur qui a toujours intéressé le Real. Il intéresse beaucoup plus le Real que son entraîneur. Ça, je peux vous le dire. Hein. Vraiment. Mais il y a un moment, le Real Madrid va se dire, on va faire un gros coup. C'est un coup de communication avant d'être un coup sportif. Mais imaginez, nous sommes le 30 août, au 1er septembre. Le PSG ne veut plus de Neymar. On est quand même tous d'accord que Neymar veut partir du PSG et que le PSG ne veut plus de Neymar. On est d'accord.
Ouais.
Qu'au moment où on parle, ça paraît impossible que ça continue. Eh ben, t'es le Real Madrid. Tu proposes 100 millions et tu mets Bale. Hein? Ouais. Est-ce que le PSG. Non, mais
non, moi, mais dans des cassos grenus comme ça. Tu nous dis ça, on le rappelle pour nos auditeurs, pour le coup, la fin du marché, c'est le 2 septembre.
Bah non, hein.
Le PSG a vraiment pas besoin de Bale pour le coup.
À moins à 50 ans en Yvelines, ils en ont peut-être besoin pour relancer un peu.
Avec ces problèmes de solaire, tu l'as dit l'autre jour, 53% des matchs non joués. Alors si on fait un record des mecs qu'on achète qui jouent pas, oui.
Et Rames Rodriguez, parce qu'il y en a deux dont Zidane veut pas.
Bale, tu l'imagines?
Bah oui, ça y jouerait bien. Il y a deux parcours.
Comment ça se fait que Bale n'est pas signé à Manchester? Ils achètent tout le monde, ils peuvent pas acheter Bale.
Mais n'en veulent pas.
Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes.
C'est vrai, Bale, finalement, les Anglais l'ont pas pris. Tu vas te le recoller, hein,
Fred. Tu nous as dit quelque chose d'important en prenant la parole tout à l'heure. Jamais la Première Ligue n'a été autant un oiseau de mauvaise augure pour la Liga. Pogba, ça ne bougera plus. Point d'interrogation.
Pogba, il n'y a pas de remplaçant, mais je peux vous dire que au moment où je vous parle, que l'objectif numéro 1 de Zidane, c'est toujours d'avoir Pogba.
Manchester n'a pas pris de remplaçant à Lukaku en plus en avançant. Donc ils vont se trouer l'équipe en enlevant Pogba encore?
Ah bah moi je pense rien. Moi je suis pas dans la tête des dirigeants de Manchester.
Quand même compliqué, hein.
Mais il est clair que l'objectif principal de Zidane quand il revient, c'était d'avoir Pogba, il l'a pas.
Il y a donc plus il va quoi le remplacer qualitativement à United.
C'est pour ça que, le Real, Fred, il y a quand même quelque chose maintenant et tu sais très bien à quel point pour le Real affirmer que c'est le plus grand club du monde aussi par la com et les gros coups de temps en temps. Envoyer le message que t'as pas réussi à te débarrasser de Bale, dont tu voulais plus. Et il y a eu une petite affaire là-dessus, Zidane n'en veut plus. T'as pas réussi. T'as pas réussi à attirer Pogba. Merde, quoi. Ça va faire un peu trop. À un moment, il va falloir qu'ils envoient ailleurs, quoi.
Parce que Manchester United demandait 150 millions et que Florentino Pérez.
Non, mais ça, je sais bien. Il n'empêche que le résultat, ensuite, c'est que le Real a certes recruté, mais que bon.
Je suis d'accord avec toi. C'est un peu derrière le Barça.
J'ai raté un truc. On se parlait au mois de juin. On nous parlait de 500 millions d'enveloppes, etc. On a mis le frein à main. On s'est calmé.
Garde tout pour Mbappé l'année prochaine.
Les plans ne se sont pas déroulés comme prévu.
Et je pense que le feuilleton ne s'est pas déroulé comme prévu.
Et l'histoire de Neymar, oui, il est possible que ça. que ça le fasse là-bas finalement.
Contre l'avis de Zidane.
Et contre l'avis de Neymar.
Zidane est aussi un employé de. Est aussi un employé, mais pas contre l'avis du papa, hein.
Ouais.
Parce que le papa, il s'entend très bien avec le Real. Et on sait l'influence qu'a le papa sur, de Neymar sur
Florentino s'entend plutôt bien avec Nasser, ils peuvent parler.
Ah, très bien. Attends. Et puis surtout, j'ai oublié le plus important. Si le PSG peut, fastidiar en espagnol, peut vraiment faire chier.
Oui, c'est niqué en français.
Ouais, bah, oui, bah, voilà, je sais pas le dire. Voilà, bah, c'est ça, comme tu
le
dis.
Le Barça.
Eh ben, allez, mais. Donc, là, tu t'envoies Neymar au Real, mais le coup de paix que tu fais au Barça.
Ah, le Real sera content aussi de le faire.
Ah, ce serait un, ce serait un beau mariage de raison.
Oui, sauf que.
C'est le Real et le PSG qui prend le Barça en sandwich.
Ouais, ouais, c'est ça. On va bien s'amuser d'ici au 2 septembre.
Voilà, dubitatif, il reste encore effectivement 3 semaines pour la Liga. Merci Fred, on va clore là-dessus.
Adios, chicos.
Salut, bonne soirée. Vous retrouvez l'after évidemment demain après l'ouverture du championnat 2019-2020 avec ce coup d'envoi entre Monaco et Lyon à partir de 20h45. Messieurs, on vous retrouve quand, messieurs, dans l'after?
Demain.
Demain? Et vous, Daniel, lundi peut-être?
Lundi, moi, ouais.
Lundi, bah, ah oui, vous allez à Louis II.
Ah bah ouais, je fais le week-end de foot, là, il faut se relancer. Là.
Il va aller observer tout ça, scouter.
Non mais il faut que je parle un peu à Silvino pour l'aider à faire l'équipe.
Avec Jean-Michel?
Moi, Jean-Michel, c'est moi, il m'a laissé un peu, il me laisse un peu faire. Là.
C'est normal, il m'a mis directement tout ce que tu lui as dit depuis 10 ans.
Oui, voilà, c'est ça, il écoute tellement ce que je dis, maintenant il me laisse en contact avec Silvino.
Il a peur que tous ses entraîneurs derrière se barrent en Chine. Je dis ça, je dis rien. Très, très bonne nuit à tous pour les Afteriens. Et on se retrouve évidemment dès demain à partir de 23h pour une after après ce premier match de Ligue 1. Vous nous rejoignez évidemment au 32-16. Bonne soirée, Kevin. Bonne soirée, Daniel.
Bonne soirée.
Bye bye.
RMC L'Afterfoot.